Alors, il y a très peu de variantes importantes entre les différents manuscrits des évangiles. Alors, dans l'évangile selon Luc, nous en avons une importante, c'est-à-dire qu'il y a une petite histoire et une phrase avec un enseignement de Jésus qui est en plus. Alors, cela mérite, je crois, de s'y pencher de plus près, car c'est quelque chose qui est assez remarquable si nous avons là une parole de Jésus que nous ne connaissons pas tellement ou que nous ne connaissons même pas du tout. C'est une phrase où Jésus nous dit à quelqu'un qui, je veux dire, ne respectait pas le sabbat, « Homme, si tu sais vraiment ce que tu fais, tu es heureux. Par contre, si tu ne le sais pas, tu es maudit et transgresseur de la loi. » Alors je vous propose d'entendre donc dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 6, les versets 1 à 11, où l'on suivra donc la version du Codex Bézaï. Jésus, un jour de sabbat particulièrement solennel, passait à travers champs. Ses disciples commencèrent à arracher les épis et à les frotter entre leurs mains pour les manger. Quelques pharisiens lui dirent alors « Regarde ce que font tes disciples pendant le jour du sabbat, ils font ce qui n'est pas permis. » Jésus leur répondit « Vous n'avez donc pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui ? S'introduisant dans la maison de Dieu, il mangea les pains de présentation et il en donna même à manger à ceux qui étaient avec lui. » Ces pains qu'il n'était pas permis de manger, sinon aux prêtres exclusivement. Le même jour, Jésus regarda quelqu'un qui travaillait pendant le sabbat et il lui dit « Homme, si vraiment tu sais ce que tu fais, tu es heureux. Par contre, si tu ne le sais pas, tu es maudit et transgresseur de la loi. » Puis Jésus entra de nouveau dans la synagogue ce jour de sabbat. Et il s'y trouvait un homme à la main desséchée. Les scribes et les pharisiens le guettaient pour trouver à l'accuser, au cas où il soignerait un jour du sabbat. Mais Jésus, connaissant leur débat, dit à celui qui avait la main desséchée, « Lève-toi et tiens-toi debout, là, au milieu. » S'étant levé, l'homme se tint debout. Jésus leur dit alors, « Je vous le demande. » Est-il permis de faire le bien ou de faire le mal pendant le sabbat, de sauver une âme ou de la perdre ? Mais eux se taisaient. Alors, regardant avec colère tous ceux qui étaient autour d'eux, Jésus dit à l'homme, « Étends ta main. » Il l'étendit, et sa main fut rétablie tout comme l'autre. Jésus leur dit alors, « Le Fils de l'homme est maître du sabbat. » Ils furent alors remplis de folie et ils débattaient entre eux comment ils pourraient le perdre. Alors je propose maintenant d'entendre dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, les 6 premiers versets qui racontent le péché originel, ou plutôt le péché fondamental, puisque c'est de nous dont il est question. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme dit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas. » Et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez pas du tout, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez alors comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et propre à donner du discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Enfin, je vous propose d'entendre dans la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 14, les 23 premiers versets. Faites bon accueil à celui qui est faible dans la foi, sans discuter des opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange. Car Dieu lui a fait bon accueil. Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître, mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de le soutenir. Tel juge un jour supérieur à un autre, tel autre les juge tous égaux. Que chacun soit pleinement convaincu dans sa propre pensée. Celui qui se préoccupe des jours s'en préoccupe pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend aussi grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort, et il est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu, car il est écrit « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. » Que chacun de nous rende compte à Dieu pour lui-même, et ne nous jugeons donc plus les uns les autres. Usez plutôt de votre jugement, pour ne pas mettre devant votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je sais et je suis persuadé dans le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi. Mais si quelqu'un estime qu'une chose est impure, alors elle est impure pour lui. Et si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause donc pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Jésus-Christ est mort. Ce qui est bien pour vous ne doit pas être un sujet de calomnie. Car le royaume de Dieu, c'est non pas le manger ni le boire, mais c'est la justice, c'est la paix, c'est la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. En vérité, tout est pur. Mais il est mal pour l'homme quand il mange de devenir une pierre d'achoppement pour l'autre. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui, pour ton frère, est une cause d'achoppement, de chute ou de faiblesse. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce que sa conduite ne résulte pas de la conviction ou de la foi. Or, tout ce qui ne résulte pas de la conviction et de la foi est péché. Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et je vous propose de chanter le cantique 289, « Bienheureux qui t'aime », les trois strophes de ce cantique 289 dans le recueil bleu « Louange et prière ». Thank you. Seigneur, nous te remercions de nous avoir réunis en ta présence pour que nous puissions te rendre un culte, pour que nous puissions recevoir de toi aussi ton amour et nous unir un peu plus à ta vie. Fais taire en nous toute voix contraire à la tienne et permets que nous sachions recevoir vraiment ta parole, non seulement l'entendre, non seulement la connaître, non seulement l'apprécier, mais vraiment la mettre en pratique. Seigneur, ouvre par ton esprit nos esprits, nos cœurs et notre vie à ta tendresse et à ta fidélité. Jésus regarda quelqu'un qui travaillait pendant le sabbat et lui dit « Homme, si vraiment tu sais ce que tu fais, tu es heureux. Par contre, si tu ne le sais pas, tu es maudit et transgresseur de la loi. » Alors cet épisode de la vie de Jésus est peu connu car elle n'est pas dans nos traductions habituelles de la Bible. Elle est seulement signalée en général par une petite note en bas de page qui nous signale que cet épisode est dans certains des plus anciens manuscrits du Nouveau Testament. Alors comment savoir pourquoi ce texte se trouve dans certains manuscrits et pas dans d'autres? En fait, il y a deux solutions. Soit il a été ajouté au texte original de Luc, dans certains manuscrits, par un scribe un peu hardi, soit il a été supprimé dans les autres manuscrits parce qu'il était trop dérangeant et qu'ils ont pensé que c'était une erreur. Alors dans le contexte de l'époque, ce verset, en fait, a toutes les raisons de gêner un tas de monde. À commencer, bien sûr, par ceux qui voulaient respecter à la lettre la loi de Moïse, contenue dans la Bible, évidemment. Mais ce verset n'arrange pas tellement non plus les chrétiens d'origine grecque qui avait choisi de considérer la loi juive comme dépassée dans le cadre de la foi en Jésus-Christ. En effet, on voit ici que Jésus met en garde très sérieusement contre un simple abandon irréfléchi de la loi. Ce qui nous fait d'ailleurs un peu grincer des dents à nous aussi, bien sûr. Il est donc probable que nous ayons ici une importante parole de Jésus, une parole originale, une parole forte, une parole qui dérange au point que certains copistes ont cru qu'il s'agissait d'une erreur. Alors c'est vrai que Jésus prenait de grandes libertés avec la loi de Moïse, avec la lettre de la lecture de la Bible. Le plus remarquable, nous le voyons ici, c'est qu'il ne respecte pas scrupuleusement le sabbat. Et cela, ce n'est pas un simple petit commandement qui traîne quelque part dans un recoin des textes bibliques et qui n'est pas toujours ou jamais appliqué par personne. Mais c'est la plus importante des 10 paroles les plus essentielles de la loi de Moïse. Excusez-moi du peu. Et donc, quand c'est pour guérir quelqu'un le jour du sabbat, on comprend la volonté de Jésus de soulager la personne et que cette volonté de soulager l'emporte sur le respect du sabbat. D'accord. Mais quand Jésus laisse ses disciples grignoter en passant quelques épis de blé pendant le sabbat, on ne voit pas trop, finalement, pour quelles raisons véritablement essentielles il laisserait faire cela, qui est finalement une offense un peu au nom de Dieu. On peut donc avoir l'impression que Jésus abolit purement et simplement les commandements de la loi de Moïse, mais en fait ce n'est pas si simple. Et nous avons tendance souvent à ne garder que ce qui nous arrange en fait dans l'Écriture. Comme dans cette phrase célèbre de Paul, « Tout est permis mais tout n'est pas utile, tout est permis mais tout ne construit pas », alors nous aimons le magnifique « Tout est permis ». C'est magnifique une religion qui dit que tout est permis. Mais ce n'est pas ce qui est marqué dans le texte de Paul. Il ne dit pas que tout est permis. Il dit que tout est permis, mais que tout n'est pas utile. Il y a une sacrée nuance. Et c'est un peu simple, nous dit-il, ensuite, de prendre prétexte de la liberté chrétienne pour faire n'importe quoi, tout ce qui nous passe par la tête. Et dans les évangiles aussi, il n'est pas marqué que Jésus supprime la loi. Au contraire, il est venu pour l'accomplir, nous dit l'Écriture. Et ce verset oublié de l'Évangile selon Luc nous permet, je crois, de mieux comprendre ce que cela veut dire et de nous ouvrir à cet accomplissement qui nous est donné en Jésus-Christ. Alors le débat entre Jésus et les pharisiens est de savoir comment choisir sa route. Alors pour les intégristes, c'est très clair. Si on pratique la loi à la lettre, ce qui est marqué dans la Bible, on est heureux, sinon on est maudit. Bon, alors je vous rassure tout de suite, même les plus fondamentalistes des fondamentalistes n'accomplissent pas tout ce qui est marqué dans la lettre, parce qu'il y a des choses absolument épouvantables. Bon, si ton fils est désobéissant, prends-le, mène-le à la porte de la ville et fais-le lapider par la ville. Bon, je veux dire, personne, même les plus fondamentalistes des traditionalistes juifs n'ont jamais appliqué ça. Donc, bon, alors cela dit, pour les intégristes, théoriquement, tout est très clair, on pratique la loi à la lettre et on est heureux, sinon on est maudit. Il est alors mal de soigner quelqu'un le jour du sabbat, surtout si ça peut attendre le lendemain, bien sûr. Bon, la main sèche, elle était sèche depuis des années, peut-être que ça aurait pu attendre le lendemain, selon les avis des traditionalistes qui étaient dans la salle, bien sûr. Et c'est criminel de grignoter un épi de blé en connaissance de cause, parce que vraiment, c'est inutile. Le Christ, lui, il n'est pas dans cette façon de lire la Bible. Le Christ, lui, il s'intéresse à ce qui est en amont de l'acte, finalement. Il s'intéresse à la personne elle-même. Grignoter un épi de blé peut être fait dans la louange à Dieu ou dans le refus de Dieu, c'est ce que nous dit Paul dans la lettre aux Romains. Pour le Christ, ce qui est primordial, c'est d'avoir pris la pleine mesure de ses actes, de garder en vue la dimension profonde de ce que l'on fait. Et la racine même du péché, c'est de ne pas savoir en vérité ce que l'on fait. Alors c'est ce que conseille l'apôtre Paul à la suite de Jésus dans ce passage de la lettre aux Romains que je vous ai lu. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction profonde, d'une foi, est un péché. Alors bien sûr, c'est extrêmement libéral et à l'opposé d'une lecture fondamentaliste de la Bible, lue comme un code moral et religieux qui s'impose sans discernement à tous et à toutes. Selon Jésus et Paul, la Bible est plutôt une nourriture pour la foi, pour la réflexion personnelle. Elle est lue pour nous ouvrir à Dieu et pour nous aider à progresser, oui, dans la connaissance de ce que nous faisons et que nous puissions alors nous décider librement et bien. C'est ainsi que Jésus conçoit la vérité, non pas comme une règle nous disant ce que nous devons faire, mais comme une capacité à avoir une intelligence de la situation et que nous puissions alors librement nous décider. Et donc cette vérité que nous propose Jésus-Christ, c'est une vérité d'être qui est extraordinairement libérante. Alors, selon cette nouvelle façon de voir que nous propose Jésus, le péché, ce n'est donc pas d'enfreindre un commandement de la loi de Moïse, mais c'est plutôt d'agir sans conviction et sans foi. Et il conclut, « Le Fils de l'homme est maître du sabbat, est maître donc de la loi. » Ce qui, bien entendu, a rendu les religieux fondamentalistes fous de rage, bien sûr, puisque cela relativise la loi écrite. Alors ce Fils de l'homme dont il est question, dans l'araméen ou dans l'hébreu utilisé par Jésus, c'est le Fils d'Adam, c'est-à-dire la personne humaine vivant en ce monde, et donc vous et moi. Certes, le Fils d'Adam avec une majuscule, mais il n'y a pas de majuscule dans le texte de la Bible. Mais le Fils d'Adam par excellence, c'est le Messie, c'est le Christ. Mais 9 fois sur 10, dans l'Ancien Testament, ce terme de Fils d'Adam sert à désigner le vulgum pecus, et donc vous et moi. Et c'est donc nous-mêmes que Jésus rend ainsi maître de la loi, maître du sabbat, maître de la loi tout entière, libre de décider de ce qui est bien et de ce qui est mal. Alors bien sûr, cela donne le vertige. Et cela semble extraordinairement même dangereux. Mais là encore, il ne faut pas oublier la deuxième partie. Oui, nous sommes libres de faire tout ce que nous voulons, comme nous le sentons. Alors c'est très bien, mais à condition de savoir ce que nous faisons, ce qui n'est pas du tout évident, évidemment. Quand Adam et Ève se décident librement de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était contre un commandement explicite de ce qui leur avait été donné. Là encore, c'était très libéral. Mais si l'on entend bien ce que dit Jésus, ce n'est pas tellement ça, finalement, qui pose problème, a priori. Le problème, c'est qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient en mangeant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils ont simplement suivi leur propre désir de l'instant, ça avait l'air bon, c'était joli à voir, et c'était aussi un plaisir de se prendre un instant pour Dieu en écoutant que soi-même. Alors certes, ils ont décidé librement, mais ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient, parce qu'ils n'ont pas voulu le savoir finalement. Et c'est ça le péché fondamental, c'est de ne pas savoir en réalité ce que l'on fait. Et peut-être ne pas s'être donné les moyens de le savoir. Parce que savoir ce que l'on fait, cela demande de se connaître soi-même, de regarder le monde et les personnes qui nous entourent. Cela demande de réfléchir, d'analyser ce qu'on a vécu pour faire le tri entre ce qui est bien et ce qui est mal, puis se réjouir du bien, regretter le mal, bien sûr. Cela demande de l'humilité pour travailler sur ses propres erreurs, et puis pour faire de bons projets, finalement. Comme nous l'enseigne l'histoire d'Adam et Ève, si nous ne comptons que sur nous-mêmes pour faire ce travail, cet travail de discernement, eh bien notre point de vue est si égocentrique que notre désir de l'instant devient vite le critère ultime du bien et du mal. Nous nous prenons alors un peu pour Dieu, ce qui en soi n'est pas tellement un problème. Mais ce qui est un problème, c'est que ce n'est pas vrai que nous sommes Dieu, et donc cela conduit à agir sans savoir ce que l'on fait. Alors bien sûr, se prendre pour Dieu, ça peut être un peu plus fin et subtil que ça, ça peut être prendre finalement son point de vue comme étant le point de vue ultime, ça peut être prendre sa théologie comme insurpassable, ça peut prendre sa communauté comme étant le royaume de Dieu, je ne sais pas. Et donc le type même du péché dans les évangiles, c'est de tuer le Christ. Alors on a là un deuxième exemple finalement du péché fondamental, péché ultime. Eh bien à l'occasion donc de la crucifixion du Christ, dans cet même évangile selon Luc, il est question une deuxième fois de savoir ce que l'on fait. Il y a donc là un écho, finalement, à cette parole un peu cachée de Jésus. Jésus, regardant les soldats romains qui étaient en train de le crucifier, prie pour eux en ces termes, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Alors ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font que Christ leur pardonne, comme si c'était une circonstance atténuante, mais parce qu'il prie pour eux, parce qu'il leur veut du bien, comme Dieu aime chacun de ses enfants, même quand ses enfants sont ses ennemis. Et donc son amour pour eux, c'est la seule raison qui fait que le Christ leur veut du bien et leur pardonne finalement, mais c'est tout à fait suffisant. Mais finalement, leur problème, c'est précisément cela, de ne pas savoir ce qu'ils font. Et c'est pour cela que Jésus prie pour eux, c'est pour ça que Jésus les recommande à Dieu, pour qu'il les aide sur ce point précis et particulier, car c'est la clé de leur cheminement futur. C'est quand on ne sait pas ce que l'on fait que l'on tue le Christ en soi-même et dans ceux que l'on touche. On tue alors le dynamisme créateur de Dieu, on chasse l'Esprit Saint, si vous voulez, pour prendre un patois théologique habituel. Pour ces soldats, Jésus de Nazareth n'a d'intérêt que parce qu'ils veulent lui prendre ses affaires, ses habits, et parce qu'on leur a dit que c'était leur devoir de le tuer. Pour Pilate, Jésus est un problème politique qu'il a le devoir de régler. Pour les intégristes de l'époque, ils croient bien faire en obéissant à la lettre de la Bible qui commande effectivement de faire exécuter Jésus, car il transgresse le sabbat. Et donc, oui, la lettre de la loi impose de le faire tuer, mais ils ne tiennent pas compte du fait que Jésus incarne la parole du Dieu dont parle en réalité cette même Bible qu'ils veulent respecter. Et donc chacun de ces hommes croit bien faire, a toutes les raisons de penser bien faire, mais ils ne savent pas vraiment ce qu'ils font. Naturellement, si je puis dire, le Christ prie pour eux tous, et crie pour eux, Dieu Christ crie pour nous, puisqu'il est venu pour les pécheurs. Naturellement, puisque telle est sa façon d'être, Dieu redouble de présence et de pédagogie quand nous sommes en train de pécher, quand nous sommes en train de faire le mal, pour sauver ces enfants qui sont en train de faire n'importe quoi. Ils n'ont pas alors des myriades d'anges pour venir les secourir alors qu'ils sont en train de mourir et de tuer, mais ils ont mieux que ça, puisque le Christ est là, la parole de Dieu faite chair, et qu'il prie pour eux à haute voix. Et c'est ici, je crois, la clé qui réconcilie notre liberté individuelle et la difficulté qu'il y a à vraiment savoir ce que l'on fait avant de se décider. La clé, c'est un humble travail sur soi-même avec Dieu, ou un travail de Dieu avec nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes, si vous voulez. C'est un travail de philosophe pour chercher ce qui est réellement sage. C'est un travail aussi d'analyste pour regarder le monde et pour se connaître mieux soi-même. Jésus dit à l'homme qui travaillait le jour du sabbat, « Si tu sais ce que tu fais, tu es heureux, mais si tu ne le sais pas, tu es maudit et transgresseur de la loi. » Et donc celui qui obéit à la lettre d'une loi indiscutable, est-ce qu'il sait vraiment ce qu'il fait ? Je ne crois pas. Celui qui est guidé par un alignement systématique à son parti ou à une tradition ou à des préjugés plus ou moins obscurs, sait-il vraiment ce qu'il fait ? Je ne crois pas. Et celui qui vit sans se poser de questions parce que cela le fatigue et qu'il est noyé dans les distractions ou dans la vie quotidienne, celui-là sait-il vraiment ce qu'il fait ? Je ne crois pas. Alors le premier point est de se poser cette question que Jésus nous propose ici à travers cette rencontre. Sais-tu ce que tu fais ? Alors nous pouvons nous demander ainsi tout simplement ce que nous faisons, qu'est-ce que nous faisons ? Puisque nous nous savons accepter et pardonner, et nous pouvons le demander devant Dieu et avec Dieu, nous demander pourquoi on agit comme nous le faisons. Regardez sa vie, regardez les circonstances et cherchez ce qui nous a motivés. Pourquoi on a réellement agi ainsi ? Ce que nous cherchions en vérité. Et comme cette page de l'Évangile le suggère, cela aide vraiment de faire ce travail finalement en dialogue avec le Christ. Ou alors, en mettant en regard notre existence avec l'Évangile, si vous voulez. Et comme la prière de Jésus en croix nous le propose, nous pouvons compter sur le pardon de Dieu, prier pour avoir son pardon, mais aussi son aide pour prendre de la hauteur, pour être un peu moins comme une petite fourmi qui marche sur une tapisserie sans comprendre la signification de ces fils de couleurs qui s'entrecroisent. Eh bien, le projet de Dieu n'est pas de nous dicter ce que nous devons faire comme on programme une machine, car alors nous ne saurions toujours pas ce que nous faisons. Le projet de Dieu n'est pas de nous dire ce que nous devons faire. Dieu n'est pas une base de données universelle sur ce que l'on doit faire en telle ou telle circonstance, mais Dieu est le Créateur, et son projet, en ce qui nous concerne, est de nous rendre capables d'un vrai discernement. Il est comme un bon éducateur qui ne veut pas seulement transmettre une connaissance, mais qui veut apprendre à apprendre et apprendre à comprendre. C'est comme cela que Dieu libère notre propre créativité et la rend source d'évolution positive pour nous et pour ceux qui sont autour de nous. Que grâce lui soit rendue. Amen. Thank you.